Bonjour à tous. Est-ce que vous avez voté ce matin? Pas encore? Oh, oui. Vous allez quand même voter cet après-midi. Oui, oui. Moi, je pense qu'il est quand même important de remplir notre devoir de citoyen pour bien choisir nos élus pour notre futur aussi. Et avant de voter, il faut aussi quand même bien réfléchir pour qui voter, n'est-ce pas? Et hier après-midi, nous avons eu un temps de prière d'intercession. Et c'était vraiment assez... Enfin, ça nous a fait beaucoup de bien de pouvoir prier. C'est vrai que la Bible nous dit de prier, intercéder pour les autorités, pour ceux qui ont le pouvoir. Et d'après la Bible, dans Proverbe 29:2, il est dit que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. C'est-à-dire que vraiment, quand les justes, si j'interprète par rapport à la situation d'aujourd'hui, si les justes votent de manière favorable pour la volonté de Dieu, le peuple sera dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Voilà un peu deux situations controversées. Une situation où le Seigneur est présent et l'autre situation où justement le peuple subit la conséquence de notre mauvais choix. Alors ce matin, je ne vais pas vous prêcher sur le choix, comment voter cet après-midi ou ce matin, mais plutôt... le choix de notre Seigneur, comment lui, il choisit les personnes avant de servir. Et vous connaissez David, comment il a été choisi, et c'est ce que nous voulons voir ensemble, c'est dans 1 Samuel, chapitre 16, à partir de verset 1, que j'aimerais vous lire maintenant, verset 1. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Dans ce verset, ce que nous pouvons apprendre, c'est que le premier roi d'Israël, Saül, a été rejeté et par Dieu. Et c'est pour ça que Samuel était triste, parce que c'est lui qui a oint le premier roi sur l'ordre du Seigneur. Si j'explique un petit peu le contexte, avant le roi Saül, le pays d'Israël était dirigé par les juges, les hommes de Dieu. On pourrait dire que l'Israël était un pays théocratique, un pays dirigé par Dieu lui-même. Et puis, les Israélites, en voyant les autres peuples, les autres pays, ils se disent: mais chaque pays a un roi, pourquoi nous n'avons pas de roi? Et c'est pour ça que le peuple a imploré à Samuel de donner un roi pour le pays. Et c'est pour ça qu'ils ont prié. Et puis Dieu a dit: si vous rejetez Dieu, ok, d'accord, mais en tout cas, vous aurez un roi qui sera présent. Et c'est comme ça que le roi Saül a été nommé. Alors, quand le roi Saül a été nommé au début, il était un roi humble. Il était un roi qui suivait les instructions du Seigneur. On pourrait dire qu'il avait un début prometteur. Il a été choisi par Dieu. Il a été oint par le grand prophète Samuel. Donc, on pourrait dire qu'il a eu un début vraiment fulgurant. Et d'ailleurs, on le décrit comme un homme de grande stature. Donc, il avait une tête de plus que les autres. Il était attirant naturellement. Voilà. Par les gens, par le peuple, et puis il recevait aussi l'admiration de tout son peuple. Ses premières actions en tant que roi montrent aussi beaucoup de courage et de détermination, c'est-à-dire que il menait souvent Israël à la victoire contre les ennemis. Et puis quand le pays souffrait par les persécutions des autres peuplades, comme par exemple par la menace des Ammonites, bah lui, il était présent avec son armée pour libérer son peuple. Donc, le roi Saül avait un début triomphant. Sauf que il commence à se décliner, ou plutôt rejeter le Seigneur. Il y a deux événements essentiels, majeurs, qui illustrent ce déclin spirituel du roi Saül. Tout d'abord, l'offrande imprudente. C'est-à-dire que, à l'époque, l'Israël, avant de mener une guerre, ils avaient l'habitude de faire une grande sacrifice. Et pendant ce sacrifice, il était nécessaire d'avoir toujours le grand sacrificateur. Et à l'époque, c'était Samuel. Donc, Dieu avait ordonné que ce soit le grand sacrificateur qui fasse la cérémonie. Et le roi, avant une bataille contre les Philistins, le sacrificateur Samuel n'arrive pas. Il était impatient et donc, il décide de faire les sacrifices lui-même. En fait, c'était une grande désobéissance par rapport à la parole de Dieu. C'est ça le premier incident, où il s'éloigne, où il n'écoute pas, où il désobéit à la parole de Dieu. Deuxième événement très important, c'est la non-exécution du jugement divin. Lorsque un jour Dieu ordonne au roi Saül de détruire complètement les Amalécites et tout ce qui leur appartient. Là, je ne vais pas discuter pourquoi Dieu était aussi cruel à ce moment-là. Je ne vais pas discuter de ça parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Peut-être si vous venez me voir après le culte, je pourrais vous en parler. Mais ce qui est le plus important, c'est que le roi Saül n'a pas obéi au commandement de Dieu. Et il a épargné non seulement le roi Agag, mais aussi il a épargné pas mal de meilleurs bétails. Il n'a pas tous exécutés, mais les bons bétails, il les a gardés. Alors le prophète Samuel vient à la rencontre de Saül en disant, mais roi Saül, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as désobéi Dieu? Et à ce moment-là, Saül répond en disant, parce que le peuple, c'est pas moi, le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Waouh! Quelle bonne raison, n'est-ce pas? Quelle bonne excuse pour ne pas obéir à Dieu. Parfois aussi, est-ce que nous ne trouvons pas des excuses comme ça en disant que « Oui, mais Seigneur, c'était pour toi. J'ai pas fait ceci parce que c'était pour toi. » Ou « J'ai fait ceci parce que, voilà, pour en ton honneur, finalement. » On a tendance à trouver des excuses comme ça devant le Seigneur. Au lieu d'avouer notre tort, la première réflexe qu'on devrait avoir, nous, quand quelqu'un vient nous dire « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Quand le Seigneur vient nous dire « Mais pourquoi t'as fait ça ?» La première chose qu'on devrait dire, « Pardon Seigneur. » Mais au lieu d'avoir nos torts, le roi Saül dit « C'est pas ma faute, c'est le peuple. » Et d'ailleurs, ce que le peuple a fait, c'est pour toi, c'est pas pour leur bien, c'est pas pour s'enrichir, même s'ils vont s'enrichir, n'est-ce pas ? Oui. Et ce qui est encore incroyable, c'est que afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Il ne dit pas mon Dieu, il ne dit pas notre Dieu, mais il dit ton Dieu. Là, je me dis, mais incroyable, ce roi qui était tellement humble au départ, il commence à s'éloigner de plus en plus. Vous savez, parfois, lorsqu'on prend une certaine autorité, une fonction, au départ, on peut se dire, mais comment je pourrais assumer cette fonction? Et une fois que nous assumons et que tout semble rouler normalement, là, on prend une certaine assurance et puis même devient plus orgueilleux, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment la nature humaine. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi Saül. Et là, bien sûr, Samuel dit la phrase très, très intéressante. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Est-ce que nous sommes obéissants à la parole de Dieu? Car si on réfléchit la vie du roi Saül, au départ, quand même, il était apprécié, il était approuvé, même il a été choisi par Dieu lui-même. Vous avez été choisi par Dieu lui-même, vous avez accepté le Seigneur. Mais il se peut aussi que, lorsque l'orgueil entre dans notre cœur, il se peut que Dieu peut nous rejeter. En tout cas, pour nous, l'histoire de Saül est un avertissement pour nous les chrétiens modernes. Et cette histoire souligne le danger de privilégier les succès visibles, et de négliger la relation personnelle avec Dieu. J'ai l'impression que le roi Saül avait complètement négligé sa relation avec Dieu, au point de dire « ton Dieu, pas mon Dieu ». Oui, le roi Saül est un exemple tragique de comment un leader prometteur, un leader spirituel, peut échouer s'il néglige sa relation avec Dieu et chercher à sauver les apparences plutôt que d'obéir pleinement à Dieu. C'est vrai que moi aussi, en tant que pasteur, ça m'arrive de réfléchir. Est-ce que je ne suis pas dans le confort personnel? C'est pour ça que souvent je réfléchis. Comment, moi, je pourrais m'en sortir de ce confort personnel pour être dans le défi continuel? C'est vraiment très important. Je pense que chacun de nous devrait réfléchir pour mieux servir le Seigneur. Je relis encore le verset 1. Après avoir dit, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur l'Israël. » Et là, après avoir dit le passé, là maintenant, il donne des paroles d'espérance. « Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. » Il est en train de dire à Samuel que, oui, le premier roi a échoué, mais j'ai l'intention de susciter un autre serviteur qui sera fidèle. Il y a vraiment de l'espérance, de l'espoir dans sa parole. Et il dit de préparer de l'huile, parce qu'à l'époque, oindre quelqu'un signifiait consacrer. C'est un homme consacré. Et donc, souvent, c'était pour nommer un autre roi. Ici, en donnant cette parole d'espérance, il ne dit pas le nom de celui qu'il doit oindre. Il aurait pu dire, écoute, c'est le fils d'Isaïe, il s'appelle David, va voir, oint David. Il n'a pas dit comme ça. Il a dit, va voir, il y a un des fils qui sera le roi. Dieu est un Dieu pédagogue. Et il voulait sûrement, à travers cet épisode, faire apprendre à Samuel quelque chose de très important. Alors, nous allons continuer la lecture, verset 2. 1 Samuel, chapitre 16, verset 2. Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, elle me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Voilà, jusqu'ici, notre lecture. après avoir reçu l'ordre de Dieu d'aller à Bethléem pour oindre un nouveau roi parmi les fils d'Israël, Samuel s'inquiète des conséquences potentielles. Sa crainte est justifiée parce que si Saül, le roi Saül, apprenait que Samuel allait oindre un autre roi, ou plutôt une autre personne, ça signifiait qu'il allait nommer un autre roi, cela serait perçu comme une trahison, même voire un coup d'État. Alors, ça pourrait, oui, lui coûter la vie. Donc Samuel exprime un petit peu son inquiétude. Mais comment irai-je ? Samuel l'apprendra, il me tuera. Et en réponse, Dieu lui répond, lui donne une stratégie pour accomplir sa volonté sans éveiller les soupçons. Prends avec toi une génisse et dis, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Voilà, Dieu ne nous invite pas à mentir, n'est-ce pas? Parfois, on se dit, mais oui, mais c'était une situation où on dit, je devais mentir. Est-ce que ça vous est arrivé de mentir? Jamais menti? Parfois, les circonstances ont fait que. Mais là, Dieu dit, mais non, malgré les circonstances, on peut trouver la sagesse pour dire la vérité. Peut-être une part de vérité. Pas toute la vérité, mais une part de vérité. Pour ne pas mentir. Oui, quand vous êtes dans une situation complexe, demandez la sagesse de Dieu pour dire la vérité et voilà, pour vous en sortir de cette situation assez délicate. Et ce qui est encore incroyable, c'est que voilà, Dieu donne la solution. Prends une génisse en disant que tu vas faire des sacrifices. Et Dieu nous accompagne ainsi pas à pas. Il nous accorde ce que nous pouvons supporter à chaque étape de notre vie. Ce qui est en tout cas mon cas, à chaque fois, dans les moments difficiles, il m'a accompagné un pas après l'autre, et puis il m'a fait porter des fardeaux que je pouvais supporter. Verset 3, tu inviteras Isaïe au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Ici, Dieu lui dit qu'il va lui faire connaître ce que Samuel doit faire et lui demande l'obéissance à Dieu. Le plus important est d'écouter la voix du Seigneur et de lui obéir. Et donc, il invite donc Isaïe au sacrifice ainsi que les autres. Au verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» En fait, Samuel est un grand homme, reconnu par tout le pays. Il était un homme, le grand sacrificateur du pays. Donc, ce grand homme qui arrive dans un petit village comme Bethléem, alors, pour nous aujourd'hui, Bethléem est une ville super significative, n'est-ce pas? Parce que nous savons que c'est là où Jésus est né, c'est là où Dieu avait promis que le Messie allait naître. Et donc, c'est une ville très importante, mais à l'époque, rien n'est comme ça. Et puis, c'est comme si Bethléem était un peu comme Vendeuvre. Ou mais encore pire. On pourrait même, je sais pas, Tortezé, ça vous dit quelque chose? C'est une vue complètement perdue. Hein. Tortezé, une ville complètement perdue. Vous allez voir sur la carte de France. Pas beaucoup d'habitants. Et tout à coup, le président Macron qui arrive dans la ville de Tortezé en disant que voilà, j'ai une grande nouvelle annoncée quoi. Et là, ils ont peur. Pourquoi il vient ici chez nous hein? Pourquoi le président Macron arriverait-il aujourd'hui dans notre village? Pourquoi? Souvent, eh ben, ce n'est pas les élections, pourquoi il viendrait? Souvent, ben, en fait, les grands hommes pouvaient aussi venir pour peut-être punir, pour redresser, pour remettre quelque chose. C'est pour ça que les anciens étaient effrayés de la nouvelle de l'arrivée de Samuel en se disant, mais pourquoi il vient là? Pourquoi il vient nous voir? Ils ont peur. Est-ce qu'il va peut-être mettre une certaine sentence, de juger certaines personnes. On ne sait pas, donc ils viennent. Est-ce que tu viens en paix? Est-ce que tu viens shalom? Et là, elle dit, bah oui. Hein. Alors, il répond au verset 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Samuel les rassure en disant, mais non, je ne viens pas pour vous annoncer les malheurs, je viens pour les sacrifices. Et ça, c'était une bonne nouvelle parce que dans l'histoire d'Israël, à chaque fois, quand les grands hommes ou Dieu sanctifiaient son peuple, c'était pour accomplir un grand projet. C'est pour ça qu'ils étaient sûrement contents que Samuel soit présent pour les sanctifier. Verset 6 et verset 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Voilà la première impression que Samuel avait. Samuel qui avait déjà oint le premier roi, Saül, il sait que maintenant ce premier roi est rejeté. Dieu va encore oindre quelqu'un d'autre pour un nouveau roi. Et quand il voit, il sait que c'est un des fils d'Isaïe. Et quand il voit l'aîné Eliab arriver, il a l'impression d'un déjà vu. Il se dit, mais j'ai l'impression de revoir le roi Saül, lui qui avait une tête plus que les autres, un homme très beau, etc., avec beaucoup de charisme. Et donc, quand il voit le fils d'Isaïe, Eliab, il était impressionné. Il était impressionné et il pense qu'il pourrait être lui l'élu. Certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui, devant l'Éternel. Et Samuel doit se souvenir probablement de la stature impressionnante de Saül. Et puis, en tout cas, Eliab était un candidat similaire. Cependant, Dieu corrige Samuel en disant, « Ne considère point ton apparence, son apparence, ni la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen. Dieu regarde notre cœur. Même si ce matin vous êtes beau, belle, bien coiffé, etc., le plus important c'est quelle est ma disposition de cœur. Parce que Dieu regarde notre cœur, Dieu regarde au cœur. En tout cas, cela nous enseigne que Dieu ne nous laisse pas impressionner par les apparences extérieures, mais il cherche des cœurs dévoués, des cœurs intègres. Et voilà, Dieu cherche vraiment des gens fidèles spirituellement à lui seul. Alors que dans la société, l'apparence joue souvent un rôle démesuré dans la manière dont nous évoluons, nous évaluons les gens. Vous savez, tout d'abord, on regarde s'il est riche. Enfin, la première impression, c'est est-ce que la personne est beau, belle, n'est-ce pas? La première impression que nous voyons. Bien coiffé, belles habits, beaux habits. Est-ce qu'il a un bon métier, hein, qui correspondrait, on pourrait ainsi, à travers son métier, évaluer sa richesse, n'est-ce pas? On a plein de critères superficiels qui devient un peu un standard pour juger les autres, n'est-ce pas? On a tendance à juger les autres par rapport à ce qu'ils sont, ce que nous voyons. Et nous avons tendance, effectivement, à accorder une grande importance à l'image extérieure et aussi aux accomplissements visibles. Or, Dieu ne regarde pas ces choses extérieures, mais il regarde au cœur, au cœur. D'ailleurs, les apparences peuvent être trompeuses, même si la personne peut être super riche, super beau, etc., etc. Il peut avoir un sale caractère, n'est-ce pas? Sale caractère. Quand je travaillais dans l'entreprise avec mon frère, il était directeur financier, puis moi j'étais son assistant. On avait aussi pas mal d'ingénieurs, pas mal de gens qui ont fait aussi MBA, leurs études aux États-Unis, etc., etc. Et souvent, voilà, on les avait embauchés à cause de leur curriculum vitae, qui sont assez bien. Et puis, finalement, après les avoir embauchés, souvent, en fait, ils n'étaient pas très attachés à l'entreprise, et puis ils partaient souvent. Il changeait souvent de travail. Et mon frère me disait, parce que c'est lui qui choisissait les personnes, c'est lui qui embauchait les personnes, il disait, moi je préfère travailler avec des gens moins qualifiés, mais surtout qui sont dévoués à l'entreprise. Et puis surtout, avec des gens qui ont des caractères assez sociables, n'est-ce pas? Oui, et pour cela, oui, il fallait vraiment un bon discernement. Nous aussi, nous devrions aussi avoir le regard du Seigneur pour avoir un bon discernement avant de faire un choix important. Un choix important. Dans la vie, nous avons toujours, tous, à faire des choix importants. Mon premier choix, c'était quand j'ai reçu l'appel du Seigneur. C'était vraiment... voilà. Et donc, j'ai choisi, après avoir reçu l'appel du Seigneur, j'ai choisi de servir le Seigneur. C'était vraiment... mon propre choix très important par rapport à tout ce que j'ai pu vivre. Mon deuxième choix important, c'était le mariage. J'ai rencontré ma femme à 33 ans, assez tardivement. À l'époque, c'était tard. À l'époque, on se mariait tôt. Donc, tous mes copains se mariaient à 24, 22 ans. Et puis, moi, à 33 ans, j'étais toujours célibataire. Bien sûr, j'ai connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes avant. Et... quand j'étais dans le monde, hein. quand je me suis converti à l'âge de 27 ans, là j'ai vraiment arrêté de sortir avec des gens. Mais voilà, et puis quand j'ai rencontré ma femme, oui, là le Seigneur m'a fait voir en discutant avec elle, en partageant nos idées, je me suis dit, mais c'est elle, voilà, c'est elle. Le Seigneur nous donne vraiment un certain discernement aussi pour le choix de notre vis-à-vis. Que le Seigneur, en tout cas les célibataires, que vous puissiez en tout cas prier pour trouver les bonnes personnes qui vous correspondent en tout cas. Voilà. Parce qu'on peut être aveugle d'amour. Hein. Peut-être que personne, enfin, les gens ne me trouvent pas beau, mais pour ma femme, j'étais beau. Heureusement, Samuel était un homme de Dieu, capable de discerner au-delà des apparences, parce que lui, c'est quelqu'un qui était à l'écoute de l'Éternel. Contrairement à nous, qui sommes souvent limités par nos perceptions visuelles, Samuel avait la capacité de voir avec les yeux de la foi, guidé par Dieu. C'est pour ça que, au départ, oui, il s'est dit, sûrement c'est Eliab, et puis Dieu a dit, mais non, c'est pas lui. Et là, il a commencé à changer de regard. Oui, c'est ça. Je ne devrais pas regarder, observer les apparences trompeuses. Je devrais me demander tout d'abord la volonté du Seigneur, l'avis du Seigneur. Et c'est comme ça qu'il les a passés l'un après l'autre, les autres fils. D'ailleurs, il demande, enfin, Isaïe fait voir devant Samuel Eliab. Ensuite, le deuxième fils, Abinadab, et ensuite Shama, et ensuite ils ne donnent même pas de nom. Donc, parce qu'ils sont. Ce n'est pas important. Après les trois fils, ils ne donnent même plus de nom. Les sept fils sont passés, et là, Samuel, voilà, ne trouve pas l'homme que Dieu veut oindre. Et Samuel demande : sont ceux-là tous tes fils ? Et Samuel, conscient que Dieu l'a envoyé pour rendre un des fils d'Isaïe, il est un peu perplexe. Après avoir passé donc en revue tous les fils présents sans recevoir l'approbation divine, il s'interroge sur l'absence possible d'un autre fils. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un autre fils? Et là, Isaïe répond, « Ah oui, il reste encore plus jeune, mais il fait paître les brebis. » C'est comme si, pour Isaïe, ce dernier fils David ne méritait pas de venir pour recevoir l'onction ou pour se sanctifier, n'est-ce pas? David, à l'époque, avait à peu près 15 ans. Donc, il n'était pas, vous savez, à l'époque, les enfants n'étaient pas très considérés par les adultes. Donc, David, qui avait seulement 15 ans, n'était pas considéré comme un candidat potentiel pour devenir roi. Son propre père, donc, Isaïe, ne l'a même pas présenté initialement à Samuel. Cela nous rappelle que, parfois, même nos proches peuvent parfois mal nous juger. Il est important, et puis nous de même aussi, on a tendance à mal juger nos proches. Il est important de ne pas sous-estimer aussi nos enfants, mais aussi ceux qui nous entourent, car ils peuvent avoir un potentiel que nous ne voyons pas immédiatement. Quand j'ai été appelé par le Seigneur, j'ai pu suivre mes études de théologie à la fac de Vaux-sur-Seine. Et puis, une fois que j'ai été formé, j'ai eu plusieurs occasions de prêcher dans mon église. Et à chaque fois, plusieurs personnes qui m'ont connu ma jeunesse, qui m'ont connu faire les 400 coups dans le monde, ils ne venaient pas au culte. Parce que pour eux, en tout cas pour certaines personnes, je n'étais pas un vrai serviteur. Et donc, je ne recevais pas leur considération. J'ai vu aussi avec Guillaume. Guillaume, vous savez, il est notre stagiaire, un gars formidable, vous le connaissez maintenant. Vous l'avez vu prêcher plusieurs fois. Vous l'avez vu prêcher même la semaine dernière, hein, avec un court message, mais très impactant. On le voit, la valeur de ce gars. Mais dans son église d'origine, il ne prêche pas. Il ne fait rien. Parce que il n'est pas encore considéré par son propre église. C'est vrai que nul n'est prophète dans son pays. On a du mal à recevoir une certaine considération par notre entourage, par notre propre famille. Et David l'a vécu ça avec son propre père. Et donc, après avoir su qu'il y a un certain dernier fils qui est présent, il a dit « Envoie-le chercher !» car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Donc Samuel, sur l'ordre de Dieu, insiste pour que David soit présent avant de poursuivre. Là, on voit bien que, voilà, ici, à travers cet événement, nous devons apprendre à voir au-delà des apparences et des préjugés. Il faut reconnaître que Dieu peut avoir un plan pour ce que nous considérons souvent comme les moins probables. Est-ce que parmi vos proches, vos familles, vous pensez peut-être certaines personnes qui sont des moins qualifiées pour faire des grandes choses? Mais sachez que Dieu regarde au cœur. On ne sait jamais de ce que Dieu va faire avec cette personne. Parfois, on a l'impression que cette personne est tellement timide, mais cette timidité, le Seigneur peut chasser, devenir un grand homme aussi. Bah, pour donner un exemple, hein, moi-même j'étais un timide, mais vraiment un timide XXL. Pour donner un exemple, je peux discuter avec une personne. Mais quand on est trois, là, j'avais du mal quand j'étais jeune. Et je me taisais. Mais vraiment, je me taisais. Je ne parlais pas. Je disais, ah, ok, oui. Et puis, je ne pouvais pas regarder dans les yeux des personnes. Jamais je pouvais faire ça. Quand je parlais avec une personne, je regardais quelqu'un ailleurs. Ah ouais, ça va toi? Oui, moi je... Parce que j'étais vraiment un introverti XXL. Mais quand le Seigneur m'a appelé, ben, ça change. Dieu change le caractère. Donc, peut-être que parmi vos proches, vos familles, il y a des personnes chez qui vous ne voyez pas forcément des potentiels, mais quand Dieu touche, quand Dieu voit leur cœur, leur amour pour Dieu, Dieu peut transformer cette personne-là. Amen. Et puis, quand nous voyons David, le père a bien dit, « Oh oui, il est allé garder les moutons. Il est allé garder les moutons. » C'est un travail dur. Imaginez David, le petit garçon, avec un bâton, en train de garder les moutons contre les bêtes féroces. Il y avait des lions, des ours, mais avec sa fronde et son bâton, il fallait les défendre. Et Dieu a fait grâce aussi. Imaginez aussi le soleil qui tape. On est en Israël, donc le soleil tape fort. Et il doit supporter cette chaleur pour garder les moutons. La parole de Dieu dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Il a été fidèle dans les petites tâches, garder les moutons. Il a été un bon berger. Et on apprend par la suite, voilà, que c'est lui qui va devenir le roi. Oui, Dieu choisit souvent ceux que le monde considère comme insignifiants. Mais la requête de Samuel est de voir tout. Enfin, après que Samuel ait vu tous ses fils, voilà. On a vu vraiment le choix de Dieu qui ne dépend pas de critères humains, mais de sa sagesse et aussi de sa volonté. J'aimerais vous lire encore deux derniers versets de notre message de ce matin. Versets 12 et 13, Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. L'apparence de David, il était blond, enfin roux, hein, avec de beaux yeux, de belles figures. Bon, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais apparemment, il était beau. Même si l'apparence n'est pas le critère principal pour Dieu, mais quand même, c'est super d'être beau de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur aussi, n'est-ce pas? Et dès le moment de son onction, David n'est plus le même. Verset 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Donc, à partir du moment où il a été oint par le serviteur de Dieu, il y a eu un changement, une transformation. Il a été rempli de l'Esprit de Dieu et il a vraiment suivi le Seigneur à partir de ce moment-là. J'aimerais conclure. Samuel, enfin, nous avons vu les erreurs du roi Saül, pourquoi il a été rejeté, pourquoi, oui, à cause de sa désobéissance. Et nous avons vu aussi comment Dieu choisit un autre leader. Et Samuel ici, après son erreur initiale avec Eliab, il apprend à évaluer les candidats selon la perspective de Dieu, que nous puissions aussi avoir cette perspective de Dieu, cherchant sa volonté au-delà des apparences, que nous puissions voir ça, que chacun de nous puissions avoir ce discernement. Pour nous, cette histoire est un rappel de l'importance de ne pas se fier aux apparences, de chercher la voix du Seigneur dans nos décisions, d'être patient et de valoriser une relation intime avec Dieu, pas comme Saül qui a rejeté cette relation intime. En suivant en tout cas ces principes, nous pouvons espérer de discerner avec sagesse et nous pouvons agir conformément à la volonté de Dieu. Je vous avais dit qu'à partir de ce moment-là, David était toujours accompagné par l'Esprit de Dieu. J'aimerais vous lire un dernier verset, Actes 10, 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur soit aussi dans notre vote, aussi, de cet après-midi, pour élire les bons dirigeants. Prions aussi pour que nos futurs dirigeants aient un cœur de berger, comme David l'a été. Amen.